20 ans.
20 ans.
20 ans.
HDR.
20 ans.
HDR.
20 ans.
1998.
2018.
HDR. La radio HDR a 20 ans.
Bon anniversaire.
À l'occasion des 20 ans de la radio HDR, nous vous proposons de replonger avec nous dans les archives de la radio afin de mieux appréhender ce fameux mix des cultures. Depuis 1998, la radio HDR émet 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur le 99.1 FM. Bon nombre de personnes sont passées sur notre antenne. L'occasion pour la radio HDR de leur rendre hommage au travers de rediffusions d'émissions passées. À l'honneur pour cette première 20 ans d'HDR, Raymond de Colas, une enfant des Hauts-de-Rouen, de 1929. Interview Albert Mendy, journaliste passé par les murs et au micro de la radio HDR.
Vous désirez qu'on parle un petit peu des sapins?
Voilà. Bon. Mais avant les sapins, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Je sais que vous vous appelez Raymond de Colas,
oui.
Et que vous avez été professeur consulaire. Et vous
êtes surtout une enfant du plateau.
Voilà, très bien. Alors, depuis quand êtes-vous dans habitez-vous
Je suis arrivée au Sapin en octobre 1929. Alors, entendons-nous bien, pour moi, pour nous tous, les Sapins, c'était les deux cités de petites maisons. Une qu'on appelait d'ailleurs l'ancienne cité, celle qui est autour de l'église, parce qu'elle a dû être finie dans 1926, quelque chose comme ça. Mmh. Et ce qu'on a appelé la nouvelle cité, juste séparée par la rue Albert-Dupuis, qu'on a appelé la nouvelle cité, où je suis arrivée, donc en octobre 1929.
Avec toute votre famille?
Avec ma famille. Ma mère, à l'époque, avait 3 enfants. On a été 6 par la suite. Une grand-mère qui vivait avec nous. C'était des femmes du Nord. Et elles nous ont élevés. Alors, ma grand-mère était d'une famille ouvrière, puisqu'elle était dans les tissages du Nord. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais la guerre de 1914 les avait repoussées en Belgique. Elles sont revenues, ce qu'elles appelaient en France, quoi, après, parce qu'on leur avait dit qu'à Rouen, il y aurait du travail, etc., etc. Mais elles ne connaissaient absolument pas Rouen. Et ma mère s'est donc mariée avec un Rouennais. Et puis, bon, bah, à l'époque, c'était un petit peu comme maintenant. Il y avait des gens curieux. C'est-à-dire que mon grand-père paternel avait dit à mon père, épouser une réfugiée, attention, on ne sait pas d'où ça vient ces gens-là. Ben, ça venait tout simplement du Nord, mais les bons bourgeois de Rouen à l'époque n'aimaient pas beaucoup ça.
Ouais.
Donc, on s'est retrouvés dans ce qu'on a appelé les maisons de famille nombreuses au Sapin. Donc, j'ai vu grandir vraiment les Sapins. J'ai vu construire l'église, j'ai vu construire les écoles. Puisque quand on a inauguré les écoles, j'avais donc 11 ans. Et j'ai gardé d'ailleurs des coupures de presse parce qu'on avait demandé à un petit garçon et une petite fille, on était montés sur la table dans le préau des écoles pour faire un compliment au ministre. Et mon petit copain avait été tout intimidé, moi je ne l'avais pas été.
Bon.
Et dans le journal, le lendemain, on m'avait fait des compliments, bon, merci, et on avait dit « le féminisme triomphe au Sapin ». Et ça, ça m'avait vraiment fait plaisir, et toute ma vie, ça m'a fait plaisir.
Mmh.
Alors, parlons des Sapins, que faisaient les gens des Sapins?
Voilà, justement, bon. Ça nous intéresse, les gens des Sapins qui sont arrivés...
Entre les années 26 et les années 30,
mmh.
C'était des gens fauchés. Comme nous, déjà.
Pourquoi ?
Un premier point. Les hommes travaillaient en général dans les usines des environs. On disait que les plus favorisés, c'était ceux qui travaillaient au chemin de fer. Il n'y avait pas à l'époque de gens, si vous voulez, qui étaient ou médecins ou même... je ne sais pas, une profession semi-intellectuelle. C'était un monde d'ouvriers. Peu de femmes travaillaient, Ma mère travaillait. Ma grand-mère était à la maison. Peu de femmes travaillaient. Elles élevaient leurs nombreux enfants. Puisque dans les sapins, il y a eu deux familles de 20 mômes. Il y en a une famille de 22, puis une de 20. Nous, on était 6, c'est vraiment pas beaucoup. Et les gens qui allaient à l'école et qui avaient les 13 ans, en général, ne continuaient pas leurs études. Les garçons, beaucoup de garçons étaient dans le bâtiment à l'époque. Et les filles, j'ai eu des copines d'école qui étaient modistes, d'autres qui étaient vendeuses. Enfin, c'était la deuxième génération qui essayait de s'en sortir comme elle pouvait. Alors, comment allait-on travailler ? En vélo.
En vélo, parce qu'il n'y avait pas de transport à l'époque.
Alors, il y avait un transport en commun qui s'arrêtait au cimetière du Nord. Mais le bus, en fait, c'était cher. Et à l'époque, il y avait même eu un trolleybus, mais qui ne partait pas tellement tôt le matin et qui ne continuait pas tellement tôt le soir. J'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter, mais je l'ai déjà dit souvent, je ne peux pas dire qu'on était dans un ghetto, mais on était dans un coin spécial. Il n'y avait pas... Vous savez, ça s'arrêtait avant les écoles. Derrière, c'était des fermes. Ce qui fait, je dis toujours, je connais bien mon plateau, mais beaucoup moins les grands immeubles qui ont été faits après. Moi, c'est surtout les sapins. Et alors donc, en général, les gens travaillaient tôt. C'est à l'époque, quand avec ma sœur, on est descendu rue Saint-Lô pour continuer nos études, nous étions 3 au sapin à continuer nos études. Et avec quel mal. Et un petit détail d'ailleurs, qu'il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être j'aime pas donner des conseils, mais méditent, on était boursiers. Mais à l'époque, on ne faisait pas la demande de bourse, on passait le concours des bourses. C'est-à-dire que non seulement on était plus pauvres que les autres, mais il fallait encore travailler plus, parce que si on n'avait pas ce concours, etc., etc. Bon, on passait le certificat d'études, et je dois dire qu'au sapin, on a eu vraiment des enseignants remarquables, une directrice et un directeur vraiment remarquables, j'insiste. Presque tout le monde a réussi quand même le certificat d'études. Alors une fois ce fameux certificat d'études sacré pendant des années, on mettait souvent les enfants à travailler. Alors, quelques-uns s'en sont sortis en prenant des cours du soir. Moi, si vous voulez, je ne suis pas l'exemple prototype du coin, parce que j'ai encore des amis de mon âge qui prétendent que j'ai eu de la chance d'avoir une mère et une grand-mère comme ça, pour nous aider à continuer à devenir peut-être pas grand-chose, mais enfin, à s'en sortir quand même.
Alors, vous vous êtes battue.
Ah oui, je me suis battue.
Pour sortir de la...
Ah, je me suis beaucoup battue, parce que... Il y a deux façons de s'en sortir. Quand... il faut bien vous dire que quand on est arrivé à l'école en ville, on était... Les filles des sapins. Vous voyez ce que ça veut dire, les filles des sapins.
Déjà, à l'époque, on vous a catalogué filles des sapins.
Ah oui, 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 c'était... Notoirement, on était vraiment à part. Et c'est un petit peu resté, parce que je connais des gens, si je leur dis « j'habite au sapin » ou « je vais au Haut-Dormant », qui me disent « ah bon ? Ah bon ?» d'un air étonné. Je dis « bah oui, oui ». Mais enfin, donc... Il y avait deux façons de s'en sortir. Ma sœur Simone a beaucoup, beaucoup bossé. Moi, je travaillais aussi, mais j'étais beaucoup plus rebelle. Et j'ai eu quelques ennuis avec ma direction quand j'étais jeune fille, quoi. Avant, ce qu'on appelait... On avait le brevet élémentaire, après le brevet supérieur, qui donnait accès à l'école normale. Et j'ai eu la chance d'avoir ma sœur et mon frère... qui donne encore des vacations à Sciences Po, d'ailleurs, tout en étant un gosse du quartier.
Alors, vous vous êtes battu pour sortir de votre statut social ou de vos origines ouvrières ?
C'était pas l'origine ouvrière qui me gênait, pas du tout, puisque pendant mes vacances d'avant-guerre, la dernière année où je faisais mes études. Pendant 2 mois, j'étais à Stiquet des Autorails à Rouen-Orléans, une gare qui doit être désaffectée. Et quand j'y suis allée, on ne m'a pas demandé ce que je savais faire. On m'a mis un seau dans la main, une balayette, des chiffons. Puis on m'a dit, c'est sur la voie numéro 3, tu vas retrouver les autres. Non, ce n'était pas sortir d'une condition ouvrière. Comment bien faire comprendre ça? Le mot ouvrier, pour moi, n'est pas du tout péjoratif. Car on est toujours ouvrier, même quand on enseigne, on est des ouvriers de l'enseignement. J'avais aucun mépris, j'avais des bonnes copines, des bons copains dans le secteur. Mais il faut bien reconnaître que c'était une vie assez difficile. Il y a eu quand même... On n'était pas malheureux. On n'était pas malheureux parce que, je crois, personne n'avait de voiture, donc on n'était pas jaloux. Et puis c'est très bien, il n'y avait pas de voiture, donc c'était pas pollué, et on pouvait jouer à la marelle ou aux billes au milieu de la rue. C'est formidable. Moi, j'estime qu'on a des souvenirs d'enfance. Il n'y avait pas de télévision. Nous, on a eu la radio très tard. Et avec ma sœur, vous voyez, derrière moi, il y a une lampe mauve, une lampe à pétrole mauve. Eh bien, nos premiers devoirs, on les faisait avec la lampe parce qu'on n'a pas eu l'électricité tout de suite. Ma mère ne pouvait pas la faire installer. Alors, ma grand-mère, pour nous aider un peu, en plus des cimaux, mais elle avait pris des enfants en nourrice. Et puis, elle faisait un peu de couture de temps en temps pour les autres. Et je la voyais toujours au baquet. Je me demande maintenant comment ces femmes-là ont pu résister. Chez nous, ce n'était pas le monde ouvrier. On s'en va à l'usine. Mon père était mort. On était une famille de femmes. En passant, les femmes ont eu le droit de vote en 1945. Mais avant, les femmes qui tenaient leur maison, qui élevaient leur môme, qui faisaient tout, elles n'avaient pas le droit au chapitre. Je fais remarquer ça parce que c'est vrai que, si vous voulez, il y avait une grosse différence entre les hommes et les femmes dans les familles. Les femmes étaient vraiment des femmes remarquables et au foyer. Les hommes, de temps en temps, ils allaient prendre leur petit coup au bistrot. C'est pas critiquable, c'était l'endroit où ils pouvaient se réunir et échanger leurs idées. Alors, je vous répète, ils allaient travailler en vélo. La moto, c'est venu plus tard, et la voiture après. Évidemment, il y a eu l'évolution. On ne reconnaît pas du tout, même les descendants dans le quartier. Il y en a qui ont mon âge et qui... J'ai bien connu leurs grands-parents, mais on dirait que les gens abandonnent un petit peu leurs souvenirs. Peut-être qu'ils l'ont en eux, entre eux, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Alors, c'était, pourrais vous dire, il y avait 2 épiceries, je crois, un bistrot, c'est tout. Il y avait pas mal de crédits.
Alors, si vous voulez, on va revenir un peu sur le travail des femmes, des ouvriers. Où est-ce que ces ouvriers allaient travailler? Est-ce que c'était en dehors de Rouen?
En dehors de Rouen, parce que j'ai jamais eu d'usine sur le plateau. Alors, les ouvriers allaient soit à Grand ou Petit Quevilly, Sotteville, ceux qui étaient au chemin de fer, et il y avait ce qu'on appelait l'électrocable, où d'ailleurs mon mari a travaillé, qui s'est appelé Pirelli après, mais tout le monde ouvrier travaillait en dehors, très en dehors du plateau. Dans les jeunes, c'était dans Rouen, mais autrement, c'était pas tout près, parce que on avait, je ne dis pas qu'on avait parqué les familles nombreuses sur le plateau, mais on était quand même très, très loin de tout. Par contre, il faut reconnaître que ça a été une grande avancée sociale parce que c'était des maisons qui avaient l'eau courante et des water, ce qui n'était pas le cas dans la ville de Rouen, dans certains quartiers. On était en fait plus moderne, je vais mettre ça entre guillemets, que les gens qui habitaient à l'époque, par exemple, le quartier de la Croix-de-Pierre.
Donc, pour les ouvriers, c'était un luxe d'avoir...
C'était un luxe et ça a vraiment été une avancée sociale Et au lieu de nous regarder un petit peu de haut, on aurait mieux fait de nous prendre pour modèle, parce que les gosses étaient propres. D'ailleurs, dans les photos qu'on a, on se rend compte que les enfants étaient en général bien tenus. Oui, en général, il y avait...
Vous allez nous montrer ces photos après.
La radio HDR a 20 ans.
Je voulais savoir comment les ouvriers s'organisaient. Est-ce qu'il y avait une solidarité? Est-ce qu'ils étaient syndiqués?
Syndiqués, peut-être pas tous, mais je dois dire que la prédominance était communiste. Il y avait le dimanche, on avait encore le droit. Il y avait deux garçons du coin, enfin deux jeunes gens, qui criaient l'humanité. Bon, c'est vrai. Mais je crois vous l'avoir dit déjà, c'était très très curieux, c'était assez œcuméniste, parce que les foyers étaient de gauche, même bien de gauche, mais tout le monde faisait sa première communion. Et vous savez, c'était le village d'autrefois avec des habitudes. On dirait des us et coutumes maintenant, mais les ouvriers travaillaient dur. Hein, avant la guerre, il y a même eu 60 heures la semaine. Mmh. Et beaucoup d'ailleurs étaient très courageux, faisaient des heures supplémentaires, mais c'était des gens qui étaient vieillis avant l'âge, je trouve. Mmh. Beaucoup étaient vieillis avant l'âge.
Alors, pensez-vous que par rapport à aujourd'hui, disons que la condition ouvrière a changé?
Oui.
Dans quel sens?
Qu'est-ce qui a amené tout ça? Je crois qu'il y a d'abord eu la radio.
Oui.
La télévision, c'est bien après la guerre. Et il y a eu la radio, il y a eu cette deuxième génération où les filles ne voulaient pas être comme leur mère au baquet toute la journée, avec des mômes partout, etc. Oui, ça, par rapport à maintenant, ça a changé. À l'époque, il était impensable de voir un ouvrier aller travailler en voiture. C'était... Je me souviens, ma pauvre mère, ma soeur, son mari et moi et mon mari, quand on a eu notre première bagnole d'occasion, maman nous a presque pris pour des capitalistes. Il y a eu cette évolution... qui s'est fait, mais il faut se rendre compte de ça, que c'était... nous, pour descendre à l'école en ville, on n'avait pas toujours de l'argent pour le bus, on faisait des allers-retours à pied. Bon, je répète qu'on n'en souffrait pas. Maintenant, en ce qui concerne les ouvriers, il y a eu des années terribles pour le monde ouvrier, les années 30 et 33. Il y a eu des périodes de chômage épouvantables où on avait institué la soupe populaire. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient plus à manger. On parle de maintenant, mais il y a eu des époques très, très, très dures. Pas d'allocations. Les allocations familiales ont dû arriver, si mes souvenirs sont exacts, aux alentours de 34, 35, quelque chose comme ça. Mais avant, il y avait pas tout ça. La sécurité sociale n'était pas ce qu'elle était. On ne demandait pas un docteur comme maintenant parce qu'on avait le rhume. On va au docteur, on va à la sécu, on est remboursé, on est content, etc. Moi, j'ai fait, je me rappelle, j'ai fait la scarlatine, on n'a pas appelé le docteur.
On va terminer avec le quartier, comment il a évolué. Je parle du quartier des Hauts-de-Rouen, les clivages qu'il y a entre les sapins et reste du Châtelet.
Là, je peux vous en parler parce que c'est quelque chose d'assez curieux. À partir de 1960, donc on a commencé à construire, 70, etc. Et ce qui est très curieux, et je leur ai souvent dit à des gens des sapins, c'est qu'ils n'ont pas vu, avec bon œil, monter toutes ces maisons et arriver des gens dans la ville. Peut-être que les gens des sapins, la deuxième génération, avaient franchi un échelon et se désintéressaient de ce qui pouvait se passer autour d'eux. Remarquez une chose, vous avez tous pu le voir. Quand on fait des réunions, soit à la Grand-Mare, soit sur le plateau ou autre, combien avez-vous de personnes des cités des sapins? Presque pas. Une personne, quelquefois. Quelquefois, il y a une dame qui vient et me dit « Oh, t'es Raymond, je te reconnais ». Quand on ajoute « t'as pas changé », je me dis « Bon, ben, je devais être moche à 20 ans, mais enfin, ça, c'est pas grave ». Il n'y a pas eu de rencontre. Le centre commercial numéro 1, celui qu'on appelle du Val-Crémieux, le premier, était le premier à ouvrir. Là, les gens étaient ravis, mais je trouve qu'il n'y a pas eu du tout de contact. Et je dis les choses comme je les pense, il n'y a pas encore de contact. Alors cette partie, qui fait partie des sapins aussi, a été construite après les bombardements, juste après-guerre. C'était un concours d'architectes. Et c'est beaucoup d'étrangers qui ont travaillé à la construction de ces maisons. C'était un grand champ. À la place de la pharmacie, il y avait une mare. On allait aux grenouilles quand on était gamin. Et le bois était beaucoup plus important que maintenant. Et surtout, on pouvait s'y promener sans avoir peur des motos qui font du motocross maintenant dans le bois. Moi, je suis allée, j'étais un moment, je dois l'avouer, je travaillais tellement que j'avais plus beaucoup de contacts. Et à ma retraite, et aussi après la mort de mon mari, quand on m'a demandé si je voulais, la première association dont j'ai fait partie, c'était Échange de Savoir, sur le plateau, où sont les allocations familiales, je cherche le nom de l'immeuble, Nicéphore Niepce. Donc je suis allée, je me suis enrôlée là, j'ai dit à l'assistante sociale, moi je veux bien, Échange de Savoir, qu'est-ce que vous voulez que j'échange? Coûte, c'est pas trop mon truc, tricoter non plus, mais je veux bien prendre des gens pour les aider soit à faire leurs devoirs, soit à y arriver. Et je me rappelle le premier garçon qu'elle m'a amené à Échange de Savoir. C'est un Africain gentil comme tout, qui maintenant d'ailleurs est un homme et a une bonne place, et qui venait m'apporter ses carnets de notes tous les mois, c'était gentil comme tout. Alors donc, une fois ou deux, j'ai quelqu'un qui est venu couper mes rosiers, en échange de quoi? Ce que je pouvais donner, c'est-à-dire donner des cours, aider les gens à faire leurs devoirs, des choses comme ça. J'y voyais clair à l'époque. Et ensuite, alors, ça s'est enchaîné. J'ai trouvé intéressant de travailler avec des gens que je ne connaissais pas, qui venaient d'ailleurs, qui ne me connaissaient pas. Je trouvais qu'on pouvait, faire connaissance, on pouvait faire beaucoup de choses. Mais c'est encore très difficile. Si vous prenez ce petit ensemble pavillonnaire, je ne sais pas, il n'y a pas deux personnes dans des maisons qui sont déjà allées jusqu'au plateau.
Alors, on parle beaucoup ici sur les sapins de classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la classe ouvrière, qui sont devenus...
sont devenus cadres ou comme...
Voilà. Est-ce qu'ils ont renié leurs origines ouvrières?
Vous me posez une question difficile. Certains, oui. Oui. Oui, par exemple, j'ai deux amies qui s'en sont très bien sorties, tant mieux pour elles. Elles ont été des années à ne pas remonter ici. Et il y en a... Parce que quand je me suis mariée, j'ai juste disparu du plateau pendant un an et demi. J'habitais Sotteville. Je m'ennuyais rive gauche. Je suis revenue donc par ici. Et cet ami-là m'a dit, tu retournes au sapin. Moi, je ne dis même pas aux gens que j'ai été élevée au sapin. Vous voyez, c'est ridicule. C'est plus ça maintenant. Je crois que c'est fini, ça. Mmh. Mais il y a eu cette période, oui, où les gens ont renié. Faut essayer de les comprendre. Ça avait tellement une mauvaise réputation. C'est ça qu'il faut. Alors que cette réputation n'était pas du tout méritée. Mmh. Il y a eu des choses, maintenant, on dirait culturelles, c'est un bien grand mot. Il y avait un cinéma qui se tenait d'abord dans la crypte de l'église, parce que c'était très œcuménique. Hein. La directrice de l'école, son mari était franc-maçon, le chanoine Maubec était catho, mais ils ont fait beaucoup pour la jeunesse. Mmh. Ensuite, le cinéma du quartier s'est tenu à la place où était le garage, là, le garage Citroën. Mmh. Et puis, il y avait un petit peu plus tard, alors ça, une petite troupe théâtrale, dont mon frère faisait partie d'ailleurs, et où personne venait d'ailleurs, hein, c'était simplement pour les sapins. Et il y a eu une bibliothèque, une première bibliothèque d'ouverte à l'école. On n'était pas, je dirais un mauvais mot, on n'était pas crasseux de l'esprit, hein. On essayait quand même. On ne peut pas dire des fêtes, je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai raconté même à Moïse dans les cassettes. Il y avait le 14 juillet, ouais, avec le bal au coin de la rue.
Voilà. Alors, pour terminer avec tous ces souvenirs, on aimerait que vous avez sur votre gauche des photos, des tableaux, oui, que vous montriez. Vous parliez un peu de ces souvenirs pour montrer...
Alors, il y en a une, je la connais par cœur.
Oui.
C'est l'école et doit y avoir la date, si mes souvenirs sont exacts.
Oui. Est-ce que vous pouvez redresser, voilà, comme ça.
Alors, je suis quelque part par là, comme
c'est un peu à gauche, voilà.
Comme c'est un cours de couture, je regarde pas, ouais, parce que j'avais horreur de ça.
Oui, oui, allez-y, continuez.
Et
vous pouvez.
Alors, oui. Toutes c'était ce qu'on appelait donc les filles des sapins.
Ouais.
Bon, elles ont presque tout mon âge. Moi, je vais avoir 87 ans là dans un mois. Elles sont plus jeunes non plus. Il y en a plus beaucoup qui sont là. C'est donc la troisième génération de ces gens-là qui est là. Moi, j'en suis déjà à ma quatrième génération, puisque je suis arrière-grand-mère. Et là-dedans, il y en a qui m'ont battu, qui ont plusieurs... Et là, ça doit être la fête de la jeunesse de Rouen. C'est-à-dire que toutes les écoles de Rouen défilaient à Rouen. On allait faire de la gymnastique au parc exposition... Et là, c'était l'école des sapins en tenue de sportive de l'époque. Avec les garçons, si je me souviens bien, qu'on me béret bien ajusté sur la tête.
Oui, on va prendre ça après.
Si je fouillais dans mes archives, j'ai évidemment d'autres photos, mais ça vous montre, voyez-vous, ce qu'on était, gamins et gamines des sapins. Et puis là, à l'école, où on travaillait très bien, parce qu'il faut se dire que tous les gens dont je vous parle, celles qui ont mon âge, elles ont toutes leurs certificats d'études. Et là, je vais raisonner comme une vieille tôle, mais bon. Quand je vois maintenant des gens qui font des demandes d'emploi ou autres, etc., et j'en parle souvent avec mon fils, qui font des fautes d'orthographe énormes, 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 ben, je me dis, on a peut-être eu de l'avance sur beaucoup de choses, mais on travaillait, on était moins sollicités aussi, hein, il faut le dire. Mmh. Quand on rentrait à la maison, on faisait nos devoirs. Il y avait une grande entraide aussi. Il y avait par exemple un monsieur qui a été président du comité des fêtes des sapins. Il s'appelait Georges Edouin, il avait une jambe de bois. Mais il connaissait... Il avait été violoniste au Théâtre des Arts, car à l'époque, les musiciens n'étaient pas des musiciens de métier comme maintenant. Et il donnait des cours de solfège à qui il désirait dans le quartier. J'y étais allée parce que du moment qu'il y avait quelque chose de nouveau, ça m'intéressait. Bon, il n'a pas fait de grand musicien, mais il a quand même occupé des gens. Il y avait une dame aussi, alors cette dame a 102 ans, elle vit toujours, mais elle est à Paris. Madame Dessault, qui donnait gratuitement aussi des cours de sténodactylo aux filles qui voulaient. Et Madame Dessault, c'est la grand-mère d'Alexis Dessault qui jouait qui joue à la télévision une femme flic ou une femme d'honneur.
Ah oui, Julie Lescaut.
Bon, cette dame-là a eu 11 enfants. Elle arrivait à faire travailler des jeunes. Et voyez-vous, peut-être que je ne connais pas bien ce qu'on appelle le monde ouvrier précisément, mais ce monde d'entraide, je connais très bien. Alors, ouais. C'est aussi curieux parce que maintenant, même chez moi, mes petits-enfants, et encore plus mon arrière-petite-fille, ne comprennent pas trop. En matière d'habillement, on ne demandait pas des marques ou bien changer à chaque rentrée. Moi, mes deux sœurs m'ont toujours dit, on te remercie, on a usé tes fringues, parce que j'étais l'aînée. Tout ça, c'est des trucs de quartier, si vous voulez. C'est peut-être pas intéressant ce que je vous raconte.
Non, c'est très intéressant,
mais,
justement.
C'est pour vous donner l'idée, comment on a été élevé. C'est bien sûr différent de ce qu'on peut entendre. Ouais. Mais les gens avaient quand même... Les gens voulaient quand même que leurs enfants soient bien. Les enfants n'étaient pas abandonnés, n'étaient pas maltraités, mais à l'époque, excusez-moi, on prenait une baffe plus vite qu'un compliment si on faisait du mal. Ça nous a pas tués.
Voilà. Bon. Voilà, donc on vous remercie.
Je m'excuse, hein,
non, mais
je me suis laissé emporter par mes souvenirs.
20 ans
20 ans
20 ans
HDR
20 ans
HDR
20 ans
1998
2018
HDR
La radio HDR a 20 ans.
Bon anniversaire.